VOA Afrique, les infos à Washington.
Il est exactement 11h en temps universel. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle tranche d'information. Je suis Irene Hermana Hungbo. Au Soudan, les généraux au pouvoir ont démis de ses fonctions le procureur général Al-Walid Saed Ahmed, alors que les responsables de la sanglante répression du sit-in à Khartoum ne sont toujours pas encore connus. Le point avec Morgane Kiriek.
La décision a été prise par le général Abdel Fattah al-Burhan, chef du conseil militaire de transition. L'agence de presse Sunna ne précise pas les raisons du limogeage du procureur général Al-Walid Sayed Ahmed et son remplacement par Abdallah Ahmed. Le nouveau procureur était à la tête d'une commission d'enquête du parquet sur la dispersion musclée le 3 juin d'un sit-in devant le quartier général de l'armée à Khartoum. Les militaires ont mis sur pied une autre commission d'enquête dont les résultats n'ont pas encore été rendus publics. Les paramilitaires des forces de soutien rapide ont été accusés, mais le numéro 2 du conseil militaire, le général Mohamed Hamdan Daglo, dit Emeiti, à la tête des RSF, a encore défendu ses forces en disant que n'importe qui pouvait se procurer sur le marché l'uniforme des RSF. Hier, des centaines de personnes ont manifesté à nouveau à Khartoum et dans d'autres villes pour réclamer le transfert du pouvoir aux civils.
En République démocratique du Congo, une trentaine d'élus d'opposition invalidés se sont installés en sit-in nocturne hier dans l'enceinte de la Cour constitutionnelle pour interpeller les juges devant réexaminer une cinquantaine de décisions contenant des erreurs matérielles. La Cour avait promis au président Félix Tshisekedi en début de semaine d'instituer en son sein une chambre spéciale pour réexaminer les décisions invalidant une vingtaine de députés d'opposition censés contenir des erreurs matériel. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a fixé hier à son nouveau gouvernement d'ambitieux objectifs dont la création de 2 millions d'emplois pour les jeunes et une croissance économique soutenue dans les 10 ans à venir. Notre pays est confronté à de nombreux défis. Notre économie n'avance plus. Nous ne créons pas assez d'emplois, a souligné M. Ramaphosa lors de son premier discours devant le Parlement depuis sa réélection après les législatives du 8 mai. L'armée malienne a annoncé hier qu'un de ses soldats a été tué et que de nombreux terroristes ont été neutralisés au cours d'une vaste opération dans le centre du pays. On fait le point avec Bagassi Koura.
Une opération montée et planifiée est en cours d'exécution dans les forêts de Yoro, Kangafani, Bodel et Omobongo dans le secteur de Koro et Bankas, ont indiqué les forces armées maliennes. Le communiqué ajoute que des bases terroristes ont été détruites. Les FAMA regrettent un mort, mais affirment que de nombreux terroristes ont été neutralisés. Les fouilles sont en cours et se poursuivront jusqu'à terme. Cette opération est suivie depuis Sévaré par le chef d'état-major de l'armée malienne, le général Abdoulaye Koulibaly, qui a été nommé peu après le massacre de quelques 160 Peuls le 23 mars à Ogossagou. Lundi soir, les villages de Gangafani et de Yoro, près de la frontière burkinabé, ont été attaqués par des assaillants motorisés et très lourdement armés. 41 villageois ont été tués, tueront les Nations Unies alors que le gouvernement fait état de 38 morts.
En Algérie, un puissant homme d'affaires, Hassen Arabaoui, PDG de Global Group, a été placé jeudi en détention préventive dans une affaire de corruption, a indiqué la télévision nationale. Il est le troisième acteur du secteur automobile algérien à être placé en détention préventive depuis le début de l'offensive judiciaire visant les hommes d'affaires et de hauts responsables politiques liés au président déchu Abdelaziz Bouteflika. Ce dernier a été poussé à la démission le 2 avril sous la pression conjuguée de la rue et de l'armée. En Grande-Bretagne, le chouchou des pro-Brexit, Boris Johnson, affrontera le chef de la diplomatie Jeremy Hunt en finale pour succéder à la première ministre Theresa May le mois prochain. Le point avec Abdourahmane Dia.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Lors du dernier tour de vote hier, l'ex-maire de Londres a conforté sa large avance avec 160 voix sur 313, suivi loin derrière par Jeremy Hunt, 77 voix, qui n'a battu que d'un cheveu le troisième candidat, le ministre de l'Environnement Michael Gove, qui a obtenu 75 voix. Au cours des prochaines semaines, les finalistes vont sillonner le pays pour présenter leur programme aux 160 000 électeurs du Parti conservateur qui doivent les départager d'ici la fin juillet. Politicien habile et charismatique, Boris Johnson jouit du soutien de nombreux militants de la base du Parti conservateur. Son rival Jeremy Hunt se pose en alternative sérieuse, mettant en avant ses succès d'entrepreneur et sa longue carrière politique. La mise en œuvre de la sortie de l'Union européenne sera la priorité absolue du nouveau chef de l'exécutif britannique. Theresa May a démissionné le 7 juin de ses fonctions de chef du Parti conservateur après 3 rejets successifs par les députés de l'accord de retrait qu'elle a négocié avec Bruxelles.
À Washington, des officiels de la Sécurité nationale refusent de commenter des informations du New York Times selon lesquelles le président Donald Trump aurait approuvé hier des frappes militaires contre l'Iran avant d'en suspendre l'ordre pour des raisons inconnues. La tension reste vive entre les États-Unis et l'Iran après la destruction d'un drone américain au-dessus du détroit d'Ormuz par les Iraniens. Dans le même temps, le président Trump et le premier ministre canadien Justin Trudeau ont fait cause commune hier pour défendre un accord commercial trilatéral avec le Mexique, accord que les démocrates américains hésitent à entériner. Après un déjeuner de travail avec M. Trump, M. Trudeau a rencontré les chefs de file des deux partis au Congrès. Avec 2 milliards de dollars de commerce par jour entre les deux pays, nous ne pouvons pas dire assez souvent à quel point cette relation entre nos deux pays est importante, a souligné le Premier ministre canadien à l'issue de la rencontre.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique en RDC sur 97.4 à Bukavu.
Retour sur la journée mondiale des réfugiés. Au nord Kivu, dans l'est de la RDC, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a enregistré plus de 200 000 réfugiés rwandais et sud-soudanais, ainsi que des Burundais qui ont fui la dernière crise électorale chez eux. À l'occasion de cette journée du 20 juin, Charlie Kasereka, notre correspondant à Goma, est allé à la rencontre de ces réfugiés burundais, dont Amida Dorothée, qui s'est installée dans le chef-lieu du nord Kivu depuis 2013. Voici son reportage.
Amida Dorothée a quitté son pays, le Burundi, en 2013. Pendant plus de 5 ans, elle ne s'est rendue pas même à la frontière. Veuve et mère de 3 enfants, dont des petites filles et un petit garçon, elle vit à Goma, en RDC.
Ce n'est pas la joie chez nous. Je vis avec mes enfants. C'est toujours compliqué, surtout pour avoir la nourriture. Et donc, si je ne gagne rien au salon de coiffure où je travaille, je n'ai nulle part où aller pour demander de l'aide, personne pour m'assister.
Amida Dorothée dit porter en elle les chagrins et une partie des séquelles de la guerre de son pays natal. Aujourd'hui, elle loue une maison de 2 pièces avec ses enfants à Katindodé, un quartier pauvre où l'eau coule rarement. Dans son pays, elle était pharmacienne, mais au Congo, elle n'a pas encore le droit de travailler. Grâce à la coiffure, un métier qu'elle a appris dès son arrivée à Goma, elle parvient à gagner quelques dollars pour subvenir à presque tous les besoins de son ménage.
C'est en 2013, à mon arrivée ici, que j'ai appris ce métier. Je me suis un peu intégrée et j'ai certaines clientes fidèles. C'est ce boulot qui m'aide à payer le loyer et certains petits besoins de ma famille. Mais les études des enfants restent le plus grand défi. Je gagne par semaine entre 5 et 20 dollars. Et c'est dans cette somme que je prends l'argent pour le loyer et la nourriture. C'est difficile. Nous sommes dans un pays étranger où même les citoyens ont beaucoup de difficultés. Il y a aussi des guerres.
Les moments de douleur dans son foyer, c'est quand ses enfants posent des questions sur leur père. Le mari d'Amida a été tué au Burundi.
Quand les enfants me posent des questions, j'essaie un peu d'en parler. C'était dans la soirée, les rebelles sont arrivés en tirant des coups de feu. J'ai jugé bon de prendre mes enfants et partir. J'ai appris la nouvelle de la mort de mon mari quelques jours après mon arrivée ici au Congo.
Malgré les difficultés, elle a des ambitions. Elle veut avoir son propre salon pour les biens de ses enfants.
Actuellement, j'organise ma vie ici. Et dans les jours à venir, j'aimerais avoir mon propre salon de coiffure et peut-être engager d'autres réfugiés comme moi.
Après les derniers enregistrements biométriques de 2014, le Nord Kivu comptait environ 200 000 réfugiés rwandais, selon les hauts commissariats pour les réfugiés. À elle seule, au 30 avril de cette année, la ville de Goma a enregistré 769 réfugiés, parmi lesquels 188 demandeurs d'asile. Charlie Kasereka pour VOA Afrique, Goma.
Ce sera tout. Bonne suite de programme sur VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.